Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la grande précarité. Sujet évidemment très douloureux, dont nous ferons d'abord le constat avec notre invité, mais surtout que nous aborderons sous l'angle des solutions qui peuvent lui être apportées et à travers, en fait, donc un thème que nous avons retenu et qui est un peu un clin d'œil donc à notre situation insulaire, qui s'appelle l'assistance aux naufragés de la grande précarité. L'exemple du quartier de la Défense, qui, comme chacun le sait, est un grand îlot urbain, donc à l'ouest de Paris. Donc, pour traiter de ce sujet, nous accueillons donc Antoine de Tilly. Antoine, bonjour.
Bonjour à tous.
Je vais dire quelques mots donc sur ton parcours, donc avant que tu ne prennes la direction de la Maison de la Précarité, il y a 6 ans, tu as fait des études d'art à l'école Boulle, pour ne point la nommer. Tu as fait tout un début de carrière dans la communication, dans le groupe M6, à La Poste. Et puis un jour, tu as décidé avec Charlotte, ta femme, en poste chez L'Oréal, de faire une sorte d'année sabbatique et de partir au Sénégal, en Casamance plus exactement, où pendant un an, vous avez géré un orphelinat. Au retour, tu t'es lancé dans une aventure entrepreneuriale, sur l'exemple de ton papa, donc en lançant le cyclocintre, que ton père avait expérimenté à titre artisanal, donc, et en essayant d'industrialiser donc, le processus, donc en vendant un certain nombre sur l'île-Dieu, donc en fait, et ailleurs. Mais définitivement, tu t'es dit, voilà, la bosse du commerce, c'est pas mon truc. Il y a quand même des choses plus importantes, en fait, à faire dans la vie. Et donc, tu as intégré une association qui s'appelle Des Captifs à la Libération, qui est une association ancienne, qui a une cinquantaine d'années, donc à Paris, et qui fait, en fait, de l'accueil pour les personnes qui vivent dans la rue et notamment aussi les personnes donc, qui vivent de la prostitution. Et puis, donc, tu as pris la responsabilité d'un des 6 secteurs, en fait, de cette association, le secteur Paris-Ouest. Et au bout de 4 ans, tu as décidé, ou tu as eu l'opportunité d'aller travailler dans une association qui fait un métier assez proche, la Maison de l'Amitié, dont tu as pris la direction maintenant il y a 6 ans. Et tu y rajoutes maintenant une autre responsabilité, donc d'une association sœur qui s'appelle la Salle à Manger. Tu nous diras ce qu'est la Salle à Manger aussi sur le parvis de la Défense. Indépendamment de tes responsabilités associatives professionnelles, en fait, tu es un des grands animateurs de Lille. D'ailleurs, je t'avais bien dit d'amener ton fan club. Tu l'as fait. Donc, tu as été un de ceux qui ont créé avec ton frère et avec un certain nombre d'amis donc, le triathlon, qui pour l'instant est un petit peu en sommeil, mais qui est une manifestation très populaire et qui peut-être revivra à une autre période de l'année. Et tu as été aussi, donc, et tu es un membre actif, en fait, des Tréteaux Lyriques, association dont tu as été aussi président, et qui organise chaque année, donc, à Paris, un opéra bouffe au profit d'associations humanitaires, donc, avec un certain nombre de chanteurs bénévoles ou semi-professionnels. Voilà, donc, qui est Antoine de Tilly. Donc, maintenant, nous sommes là pour parler de la Maison de l'Amitié, du métier que vous y exercez. Mais peut-être avant de parler spécifiquement de la Maison de l'Amitié, ça serait bien que tu nous donnes quelques éléments de contexte, en fait, et une meilleure connaissance de ce sujet de la grande précarité. Qu'est-ce que c'est exactement que la grande précarité en France? Est-ce que ça se confond avec la grande pauvreté ou est-ce que c'est autre chose? Quelle est la typologie des personnes qui sont en grande précarité? Donc, d'où elles viennent? Voilà. Donc, avant de parler de la Défense et de la Maison de l'Amitié, un peu un panorama plus général.
Merci Arnaud. Alors évidemment, avant de commencer, je vais évidemment remercier tous ceux qui ont la bonne idée d'organiser ces temps de rencontre, et notamment toutes les équipes qui sont là, qui sont venues ce matin pour préparer tout ça. Un grand merci aussi à Arnaud, pour la préparation de cette rencontre. Puis merci aussi à vous tous d'être là. C'est vrai que dans cette parenthèse enchantée de Lilieu, pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément très très drôle. Mais il faut aussi, tout en étant conscient des enjeux et de la gravité, prendre un peu de légèreté. Et donc je suis absolument ravi de pouvoir partager ces temps avec vous. Une fois qu'on a dit ça... Alors oui, je vais vous parler un petit peu de la grande précarité et de la manière dont on peut rencontrer ou accompagner ces personnes-là qui sont souvent dans des situations très difficiles. Alors il y a autant de définitions de la grande pauvreté que de la grande précarité que d'instituts ou d'organismes qui essayent de définir toute cette notion. Moi, la vraie différence que j'y vois, c'est autant la pauvreté, la grande pauvreté. On est plutôt sur des définitions autour de la du niveau de ressources financières des personnes. Autant la grande précarité, on y ajoute souvent une part autour du lien social et de la rupture de ce lien, et donc cette précarité dans le lien et cette précarité dans tout ce qui nous entoure. Ça veut dire que les personnes en grande précarité sont souvent, dans la plupart des cas, des personnes qui n'ont pas de domicile fixe et qui sont aussi ce qu'on appelle en errance sociale, en errance financière, en errance de logement, en errance de lien avec leur famille. Et ces personnes-là peuvent avoir plusieurs profils. On estime en France... Alors là aussi, entre les manifestants et la police, il y a une espèce d'écart entre le nombre de personnes qu'on peut identifier et bien évidemment le profil des personnes fait que c'est difficile de les comptabiliser. Mais on estime entre 150 000 et 300 000 personnes de SDF en France, dont à peu près la moitié sont en Île-de-France. Pourquoi ? À cela, plusieurs raisons. D'une part, alors je vais essayer de ne pas donner trop de chiffres, parce que là... particularité ou la singularité de notre mission, c'est justement de dépasser les chiffres pour aller à la rencontre des personnes, et c'est ça qui fait la beauté de ces missions. Mais je vais quand même vous en donner quelques-uns pour essayer soit que vous ayez des éléments de comparaison, soit au contraire que vous puissiez avoir des repères et peut-être réfléchir sur les préjugés qu'on peut avoir sur ces personnes-là. Moi, deux chiffres qui m'ont touché quand j'ai commencé à m'intéresser à cette population, c'était d'une part que 65% des personnes qui sont à la rue vivent seules. Alors on peut penser qu'on les voit souvent à 2, à 3, à 4, en petits groupes. In fine, ils vivent seuls. Et la deuxième autre chiffre qui pour moi me marque beaucoup, c'est que 85% de ces personnes ont un sentiment de rejet de la part des passants. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils croisent le regard d'une personne, souvent avec une position debout, alors qu'eux, ils sont assis, un peu top-down, leur fait baisser la tête de plus en plus. Quand on sait à côté de ça que 23% des personnes en grande précarité viennent ou sont issues des dispositifs de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Forcément, ça, on ne part pas dans la vie avec les plus grandes facilités. Quand on voit aussi qu'il y en a 32% qui ont des troubles d'humeur ou des troubles psychiques, et ben forcément, ça n'aide pas non plus. Alors, on a toute une partie de la population qui ont eu ou ont, mais comme nous tous, des grands moments de rupture, soit divorce, soit échec de boulot, qui fait qu'à un moment ça va moins bien. Et là tout, alors c'est un peu classique ce que je dis, mais tout peut un peu s'enchaîner et ça peut aller vite dans des situations difficiles. On a 40% des femmes qui sont en situation de 40% des personnes en situation de précarité qui sont des femmes. L'écart peut s'expliquer aussi parce que de temps en temps, sans faire de généralité, les femmes ont plutôt tendance à expliquer un peu plus tôt leurs problèmes ou s'exprimer un peu davantage. Et donc, elles arrivent à en parler un peu plus tôt et donc d'être tombées un peu moins bas pour pouvoir remonter. Les hommes ont tendance à s'enfermer sur eux-mêmes, quitter leur appartement, aller dans leur voiture, se faire cambrioler la voiture, perdre leurs papiers et frapper dans une structure comme la nôtre de la Maison de l'Amitié. Et donc dans le spectre des populations qui vont franchir le pas de la porte pour entrer dans une structure d'accueil, vous avez soit des jeunes en errance, soit des personnes qui vont être immigrées et qui vont, pour des raisons diverses et variées, quitter leur pays et ne pas savoir où aller quand ils vont arriver dans leur pays d'accueil, soit des personnes qui vont justement être en rupture et être dans une phase down de leur vie et qui vont se retrouver à se retourner en disant « je ne peux pas aller voir mes amis, j'ai perdu mon contact avec mes enfants ou ma famille, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là qu'en France, il y a plein de dispositifs qui sont en place.
Alors ça, c'est la big picture, en fait. Donc ça, c'est la situation générale. Pourquoi ? Alors la défense, parce que c'est vrai que la défense, en fait, il y a des gratte-ciels magnifiques. En fait, il y a tous les sièges sociaux, il y a les grands du CAC qui sont là. On n'associe pas véritablement la défense à l'image de la précarité et de la grande précarité. Donc c'est la face sombre de la défense ?
C'est un peu la face sombre, c'est qu'il y en a qui vont monter dans les 30e, 40e, 60e étages des tours, et puis il y en a d'autres qui vont au contraire descendre dans les moins 1, moins 2, moins 3, voire moins 4 dans les parkings ou dans les tunnels de la défense. Alors pourquoi la défense ? Alors il y a des choses assez simples, hein, c'est que les personnes qui sont en grande précarité ne sont pas débiles, et donc du coup elles vont sur les lieux où potentiellement elles peuvent y trouver leur compte. Et alors la défense, plusieurs choses qui peuvent être intéressantes pour eux. D'une part, il y a des transports en commun, donc on peut échouer à la défense. Il y a beaucoup, c'est un grand hub qui fait que vous pouvez échouer à la défense. Alors je suis désolé, je m'oriente plutôt par là parce qu'on m'a dit que sinon ça avait du Larsen. Donc je ne vous oublie pas. Mais on m'a plutôt demandé de dire
non, Charles. Tu peux tourner la tête, mais pas le dos.
D'accord. Donc je disais, un hub des transports en commun. Je vous le disais aussi, les gens sont seuls. Et donc quel quartier ou le plus vivant que la défense où on va croiser de plus en plus de monde, et du coup on va pouvoir faire semblant d'aller au bureau, de se balader et de croiser des gens, de croiser des regards, de discuter 5 minutes avec les personnes. Donc un lieu de vie, un lieu aussi de ressources bien évidemment, tous les gens qui sont à la défense, je crois qu'il y a 170 000 travailleurs à la défense, il y a 80 000 étudiants, il y a 32 écoles, grandes écoles, il y a 70 000 habitants. Donc forcément, il y a des personnes qui peuvent venir en aide. Et puis enfin, bien évidemment, comme c'est un gigantesque gruyère, où même l'établissement public de la Défense a du mal à savoir quelles sont les zones qui appartiennent à qui et sous quelles responsabilités elles sont, et bien vous avez au moins 2, au moins 3, des locaux techniques, des recoins, des escaliers qui font que vous êtes à l'abri à la fois des intempéries, un peu à l'abri, bizarrement en sécurité, et dans des endroits qui peuvent de temps en temps être plus propres que des lieux d'hébergement qu'on va vous proposer par le 115. Et donc, ils peuvent être entre amis, ils peuvent avoir un peu dimensionné un peu l'espace qui va leur convenir, et donc ils vont décider de s'installer à la Défense. Beaucoup ne vont être que de passage, donc ils vont venir à la Défense, regarder un peu ce qui se passe et repartir, ou au contraire, s'installer un peu à la Défense, et commencer quelques démarches, ou en tout cas recréer un réseau social.
Alors recréer le réseau social et monter d'un ou deux étages à la Maison de l'Amitié, sur le parvis, et qu'est-ce que vous leur offrez alors, comme service ?
Sur les différentes parties prenantes qui vont essayer d'aller à la rencontre de ces personnes-là et de les soutenir, vous allez avoir plusieurs types de structures. Vous allez avoir ce que tout le monde connaît, les maraudes. Les maraudes, c'est des personnes, travailleurs sociaux ou bénévoles, qui vont aller à la rencontre des personnes qui sont en situation de précarité à la rue, sachant qu'il n'y a que 14% des personnes SDF qui font la manche. Et donc vous allez avoir les maraudes, dont le but va être à double titre, soit dans la finalité de la rencontre, uniquement voir la personne, ce qu'on appelle des maraudes à main nue, soit distributive, où là vous allez avoir des gens qui font des maraudes pour distribuer des sacs de couchage, des radios, des choses comme ça, soit médicale, le SAMU social qui va essayer de proposer au moins un premier soin. D'une part, les maraudes qui vont essayer d'orienter vers des structures comme peut être la Maison de l'Amitié, c'est ce qu'on appelle des accueils de jour. Accueil de jour, donc c'est ce qu'on appelle des accueils inconditionnels, et ce terme est assez fort. Inconditionnel, ça veut dire que les personnes vont pouvoir rentrer chez nous quelle que soit leur situation, quel que soit leur passé, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur opinion politique. Et ces personnes-là qui vont avoir le courage de franchir le pas d'une structure comme la nôtre vont pouvoir trouver des services de première dignité. Première dignité, ça veut dire quand les personnes arrivent en guenilles, qu'elles arrivent sans chaussures, avec un drap autour de la taille, et complètement perdues parce qu'elles sont sorties d'un hôpital et qu'on ne leur a pas donné de structure d'accueil, ben forcément on va leur proposer de pouvoir se changer, donc un vestiaire, se nettoyer, des douches, des toilettes, l'accès à l'eau sur le territoire de la Défense, si vous n'avez pas une carte bleue ou des euros sur vous, vous ne pouvez plus aller aux toilettes. Et ensuite, on va pouvoir aussi leur offrir une bagagerie, de laver leur linge, et surtout, tout ça, surtout comme levier pour proposer un accompagnement social. L'idée étant de coupler des services de première dignité qui vont être orientés pour pouvoir le plus possible rencontrer les personnes en vérité, et ensuite leur proposer un accompagnement social. Donc les accueils de jour qui vont s'arrêter en fin de journée, et ensuite, des structures d'hébergement, avec plusieurs types d'hébergement. Soit des hébergements qui sont liés souvent au SAMU social, qui est ce qu'on appelle le 115. Quand vous êtes à la rue, vous ne savez pas où dormir, vous appelez le 115, vous tombez sur une opératrice, un opérateur, qui en fonction de votre profil, si vous êtes déjà connu ou pas, va vous orienter vers une structure d'accueil où vous allez pouvoir dormir. Soit sur une petite durée, une nuitée, deux nuitées, trois nuitées. Ça, c'est le 115. Soit ensuite dans des centres d'hébergement d'urgence, où là vous êtes plus sur des durées de 14 jours. Et ensuite, si vous continuez le process, vous allez pouvoir avoir des hébergements d'urgence avec derrière une réinsertion sociale. Et donc là, vous êtes sur des timings beaucoup plus longs, où vous allez pouvoir héberger plus longtemps. Mais pour ça, comme vous voyez, il faut pouvoir suivre le process, et il faut pouvoir être dans la continuité, dans la confiance, dans la vérité avec la personne qui va vous accompagner. Et donc, il faut convaincre les gens qu'il faut prendre du temps, et que tout ça, ça va prendre du temps. Voilà. Donc voilà un peu le champ des structures qui va pouvoir vous être proposé quand vous êtes dans une situation de grande précarité. Et dans une structure comme la nôtre, il y a quatre grands principes qui pour nous sont un peu les fondements de la vision qu'on a sur l'accompagnement des personnes, qui sont l'inconditionnalité, on accepte tout le monde, et je ne suis pas ministre des solidarités, on a le droit de faire ça dans le cadre d'une association. L'intégralité de la personne, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte toute la personnalité de la personne, toute son histoire, et notamment les sujets religieux. C'est souvent un vrai levier dans la capacité de résilience des personnes que de traiter aussi les sujets de fond. Pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on va faire demain, voilà. La fidélité, il faut du temps, il faut être structuré, il faut que la structure reste là, il faut que ça soit une espèce de roc sur lequel les personnes vont pouvoir se relancer, et donc tenir dans le temps. Comme je vous l'ai dit, les personnes ont beaucoup de ruptures, et le fait de savoir que la structure est toujours là, que l'ADN de la structure est toujours là, et que même s'ils font des bêtises à droite et à gauche, ils vont pouvoir revenir et se raccrocher à quelque chose qui pour l'instant n'ont pas, très important pour eux. Et enfin, la gratuité. La gratuité, c'est qu'il faut un peu faire le deuil de la reconnaissance, il faut lâcher prise, il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, et de se dire que soit tout ce qui est fait n'est plus à faire, soit que le don ne nécessite pas forcément de contre-don. Et donc il faut apprendre à donner sans attendre en retour. C'est ça un peu les quatre grands principes.
Alors, qui assure ces services? Est-ce que c'est des professionnels, des travailleurs sociaux, des bénévoles? Comment ça se passe concrètement?
Alors, depuis quelques années maintenant, l'idée c'est d'avoir une complémentarité entre les missions des bénévoles et les missions des travailleurs sociaux. Le travail social est un vrai métier qui demande des connaissances, et en même temps l'apport des bénévoles, de l'engagement est nécessaire voire obligatoire pour que ces personnes-là puissent s'en sortir. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut passer d'une envie d'aider à une envie de rencontrer. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'on va avoir souvent des élans de charité, de générosité, pour aller à la rencontre de ces personnes, mais on se sent un peu démuni, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc on se projette un peu à la place de la personne, en essayant de savoir ce qu'elle veut en fait, à sa place. Et donc il ne faut pas faire avec, enfin il ne faut pas faire pour la personne, mais avec la personne, en étant à côté d'elle et en ayant son rythme, en fonction de ses besoins. Donc une grosse complémentarité entre les missions des bénévoles et les missions des travailleurs sociaux, qui commencent, mais devraient être plus valorisées, parce que c'est des métiers passionnants, et c'est des métiers où on travaille sur le fond, en n'étant que dans l'interaction avec des personnes qui ont souvent une espèce de force intérieure, parce que vivre à la rue, vivre avec de l'alcool, vivre avec la violence, vivre avec une rupture des liens sociaux, etc. C'est vraiment pas simple. Et ces personnes-là ont une force terrible, très belle, et qu'il faut essayer de réorienter. C'est pas forcément très simple, parce que nous, on n'est qu'un seul maillon de la chaîne, et que vous avez d'autres structures qui vont pouvoir les aider avant, ils vont passer nous voir, et puis ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est leur choix, ils vont continuer leur chemin. Mais il faut les aider dans cette démarche-là. Donc, complémentarité salarié-bénévole et complémentarité aussi entre l'État et les associations. État parce que ces structures comme les structures d'accueil sont partiellement financées par l'État, mais aussi et grâce à soit des fondations d'entreprise, soit des fondations familiales, soit des particuliers. L'État généralement arrive à peu près à financer le rôle des travailleurs sociaux, parce qu'ils ont un rôle d'accompagnement de ces personnes-là. En revanche, tout le reste, il faut qu'on aille un peu chercher de l'argent pour pouvoir proposer un cadre aussi bien aux personnes qui en accueillent, mais aussi aux bénévoles qu'on va accueillir, pour qu'ils aient une formation, pour qu'on puisse travailler dans le temps, pour comprendre quel est le cadre de travail qu'on va se fixer pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que tout le monde s'entende bien et que tout le monde ne soit pas frustré. Tout le monde comprenne l'objectif qu'on se fixe sur ces personnes-là. Et donc voilà un peu les parties prenantes, l'État, les bénévoles, les associations, tout ça, ça se structure, tout ça, ça travaille de mieux en mieux ensemble. Et je pense que c'est ces partenariats qui sont la bonne solution.
Alors, est-ce que tu peux, sans nous noyer de chiffres, nous donner quand même quelques indicateurs d'activité sur cette petite entreprise sociale qu'est la Maison de l'Amitié ? C'est combien de salariés, combien de bénévoles, quel budget, combien vous accueillez de gens par jour, par an ?
Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, la Maison de l'Amitié, moi je suis arrivé il y a 6 ans, on accueillait à peu près 70 personnes par jour. 70 personnes par jour différentes. On est en 2023 et aujourd'hui, on est ouvert toute l'année. Donc à l'heure où je vous parle, la structure est ouverte à la Défense. Aujourd'hui, si j'appelle mon chef de service, il me dit on doit être à 185. On a une courbe qui était croissante. On a eu un vrai pic bizarrement au moment du Covid. Et puis là, ça se restabilise au niveau de 180 personnes le matin. Donc on arrive en fin de la journée à 215 personnes. Il y a beaucoup plus de monde le matin, parce que dans la vie d'une personne en grande précarité, le matin, il appelle le 115, il s'occupe un peu de lui. Et à partir de 13-14 heures, une fois qu'il a pris sa douche, qu'il a trouvé un endroit pour manger un petit peu, il va commencer à réfléchir sur où est-ce qu'il va dormir. Donc le moment où il se pose, c'est plutôt le matin. Donc les structures d'accueil sont plutôt fréquentées le matin. Donc à peu près 200 personnes par jour, une moyenne d'âge de 40 ans, donc c'est quand même très jeune. La particularité de la Défense et du centre d'accueil de la Maison de l'Amitié, c'est qu'on n'est pas spécialement adapté pour un public féminin, donc on n'a que 13% de femmes, ce qui va nous amener à essayer d'ouvrir un accueil dédié aux femmes au cours de l'année 2024. Comme je vous l'ai dit, il y a à la fois un service de première dignité et aussi des travailleurs sociaux. L'avantage de la Maison de l'Amitié, c'est qu'on couple à la fois ses services et ses entretiens sociaux et que du coup, on voit très bien un peu les nouvelles problématiques qui se posent ou les nouveaux besoins de ces personnes-là. Et en fonction de... Du coup, on a plein d'informations sur quelles sont leurs premières demandes, de quoi ils ont véritablement besoin, quelle est la demande cachée, parce que quand vous arrivez, évidemment, le récit de vie que vous faites n'est pas forcément le vrai. Et il faut un peu du temps pour s'installer et installer la confiance. Donc ensuite, vous passez d'une première demande qui est un peu fictive à une demande beaucoup plus profonde. Et c'est celle-là qu'il va falloir gérer et traiter pour qu'ensuite, tout se démêle un petit peu. Et pour certains, ça va être essayer d'avoir des lunettes. D'autres, ça va être des problèmes de pieds parce qu'il n'arrive plus à marcher, parce qu'à force de marcher 40 km par jour, et ben, il a les pieds qui sont dans un état qui ne sont pas très très, 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 très belles. Ça peut être de retrouver du lien avec sa famille. Ça peut être de trouver un hébergement. Ça peut être de refaire des papiers. Ça peut être des problèmes de domiciliation. Vous savez qu'en France, si vous voulez entamer des démarches administratives, il faut que vous ayez une adresse. Et cette adresse-là... elle peut vous être proposée par votre commune. Certaines jouent plus ou moins le jeu. Et donc, il faut aussi travailler sur cette notion de domiciliation. Et donc, souvent, c'est soit des problèmes de soins, d'abord, ensuite des problématiques administratives, et puis ensuite des problématiques soit de logement, soit de travail. Et là encore, est-ce que c'est l'œuf ou la poule sur il faut d'abord avoir un travail pour avoir un hébergement, il faut d'abord avoir un hébergement pour travailler. Voilà. Sachant qu'ensuite, sur cette notion de reprise d'activité, qui est souvent un sujet qui intéresse les gens de la défense, sur OK, mais comment on fait pour les remettre dans l'activité économique ? Autant les personnes qui vivent en situation de grande précarité à la rue sont incapables d'avoir un boulot et de travailler 35 heures, c'est même pas la peine, parce que déjà, ils n'y arriveront pas. Le problème d'alcool, d'hébergement. Et donc, il y a des dispositifs spécifiques qui s'appellent les DPH, les dispositifs premières heures, où on va proposer à ces personnes-là, pour mieux les connaître, pour voir comment elles réagissent dans un cadre collectif, est-ce qu'elles arrivent à avoir une autorité, est-ce qu'elles arrivent à travailler dans un collectif, est-ce qu'elles arrivent à arriver le matin propre et de bonne humeur, etc. Donc, vous avez des dispositifs qui existent, qui nous permettent de voir quelles vont être les prochaines étapes qu'on va pouvoir proposer à ces personnes-là.
Et alors, peut-être oui. Je fais la transition avec la salle à manger, parce que c'est une activité complémentaire et qui fait appel, justement, donc, en fait, à des gens qui sont en réinsertion.
Alors, ce qui est assez étonnant là, sur le territoire de la Défense, c'est que vous avez un tissu associatif qui est assez pauvre et qui n'existe pas vraiment. Et en même temps, on pourrait se dire que la Défense, il y a un petit peu d'argent et qu'on doit pouvoir essayer d'essayer de chercher de nouvelles solutions. Nous, ma principale mission, autant c'est d'encadrer et de faire en sorte que les gens soient contents de franchir le pas de la maison d'amitié. C'est aussi de former un maximum les travailleurs sociaux pour qu'ils soient les plus compétents et les plus adaptés possibles. Mais c'est aussi de chercher quelles pourraient être les meilleures solutions pour que ces personnes-là puissent justement avoir cette capacité de résilience et d'aller mieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a pas mal d'infos. On a vu à 3-4 ans qu'il y avait un vrai problème autour de la nutrition santé des personnes en grande précarité, à qui souvent on donne soit des friandises, soit des sandwichs, ou des choses qui sont souvent très transformées, et du coup, ils déjeunent un peu à n'importe quelle heure en fonction des opportunités. Vrai problème de nutrition santé et vrai problème d'isolement social. Et donc, nous, on s'est dit à la Défense, en plus, il y avait plein de gaspillage alimentaire à la Défense, qu'on allait essayer de créer un lieu où à la fois les gens allaient pouvoir bien manger et allaient pouvoir rencontrer d'autres personnes dans un cadre beau et bon, tout en étant un atelier chantier d'insertion. Et donc on a créé ce qu'on appelle la salle à manger, qui est un restaurant solidaire, qui est accessible à tous, avec des tarifs particuliers pour les personnes en grande précarité, à qui on va donner une carte mensuelle distribuée par des travailleurs sociaux, toujours dans cette démarche de faire une régularité dans la rencontre avec le travailleur social pour essayer de tenir dans le temps, pour que les choses avancent progressivement. Des cartes qui vont donner droit à un repas de 1 euro. Tout le monde va pouvoir y déjeuner, notamment ces personnes-là, et ces repas sont préparés par des personnes en insertion, que avec des invendus de la Défense. Donc c'est que des fruits et légumes qu'on récupère, qu'on retransforme. Du coup, ça fait du super boulot pour les personnes qui vont apprendre la cuisine et qui vont travailler ces produits frais et leur distribuer le jour même. Tout ça, ça s'appelle la salle à manger. Et du coup, c'est à la fois bénéfique pour les personnes en grande précarité qui sont souvent issues de la maison de l'amitié, qui vont du coup prendre leur douche, se mettre un peu sur leur 31 parce que c'est servi à l'assiette et c'est quand même dans un cadre plutôt sympathique. Venir déjeuner en croisant, je sais pas, un banquier d'affaires qui va venir déjeuner et qui va pas savoir où aller aujourd'hui et qui va se dire, tiens, et si j'allais à la salle à manger.
Ils ne paieront pas tout à fait le même prix.
Ils paieront pas tout à fait le même prix, mais en même temps, comme c'est un atelier tenté d'insertion, on n'est vraiment pas très cher par rapport au tarif de la défense. Et donc, vous pouvez, donc je fais un peu la pub, hein, vous pouvez venir déjeuner pour 11 € si c'est entrée plat ou plat dessert, ou 15 € entrée plat dessert, avoir un repas très très bon avec un cuisinier professionnel qui va vous faire des menus. Alors, vous avez une carte courte, forcément, parce que c'est en fonction des invendus, donc deux entrées, deux plats ou deux desserts, avec un plat végétarien, ce qui nous enlève toutes les problématiques que vous pouvez imaginer. Et puis ensuite, vous passez un bon moment et vous évitez l'isolement de ces personnes.
Et c'est sans alcool, ça n'est pas comme sur l'île-dieu.
Malheureusement, je dois le dire à petite voix, mais c'est sans alcool.
C'est sans alcool. Bon, tu disais donc que par rapport à il y a 6 ans, en fait, il y a près de 3 fois plus de gens qui frappent en fait à la porte de la maison de l'amitié par jour. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de gens qui vivent dans les sous-sols, ou est-ce que ça veut dire donc que la maison de l'amitié est de plus en plus populaire et que beaucoup plus en fait viennent frapper à votre porte parce qu'en fait ils savent les services que vous pouvez leur apporter?
Alors j'aimerais bien, mais malheureusement c'est plutôt la première option. Donc c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent complètement démunies et qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas qui rencontrer, qui ne savent pas où aller, et plutôt que d'aller dans leur CCAS de la mairie, etc., frappent aux portes des associations, pensant qu'elles vont être un peu plus disponibles, qu'elles vont peut-être appréhender la situation un peu différemment, mais c'est plutôt la première option. Alors, on aime à dire qu'à la Défense, justement, on essaie d'expérimenter des nouvelles solutions et d'avoir un maximum de solutions à proposer pour ces patients-là, parce qu'on a du coup des infirmières psy qui viennent, des addictologues, on a une podologue qui vient une fois toutes les 2 semaines, on a une médecin de l'ordre de Malte qui vient venir aussi pour une espèce de bobologie, on a des sensibilisations sur les problématiques liées à l'hygiène, liées aux puces de lit, enfin on peut imaginer plein de sensibilisations, une grosse aussi activité autour de l'estime de soi, on fait venir des socio-esthéticiens ou socio-esthéticiennes à la maison de l'amitié pour retrouver la notion d'appartenance à son corps, de reprendre conscience de son corps. C'est pour ça un peu que de temps en temps les personnes en grande précarité sentent mauvaises. C'est aussi un moyen de dire que j'existe et que je suis là. Donc tout ça, on essaye de trouver maximum tout en étant et en essayant de garder l'ADN qui est inconditionnalité et éviter justement de faire du rentre-dedans pour dire mais il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses ça, il faut trouver la ligne de crête entre c'est disponible et lui donner envie de faire ce premier pas.
Bon, tu as expliqué qu'en fait, il y a un tas d'acteurs qui se mobilisent, en fait, et il y a toute une chaîne, en fait, de la réinsertion et qui mêle plein d'acteurs. En amont, il y a la rencontre individuelle, et cette rencontre individuelle, ça peut être chacun d'entre nous, qu'en fait, qui va la faire, donc avec une personne dans la rue. Donc, peut-être, en fait, après la rencontre, tu vas recruter un certain nombre de bénévoles, en fait, ici, donc, pour vous aider, effectivement, dans votre action. Mais d'une manière plus générale, justement, par rapport à la gêne que chacun peut éprouver dans cette rencontre individuelle avec quelqu'un qui, comme tu dis, n'est pas, effectivement, donc, d'abord au même niveau spatial, mais surtout dont on sent bien qu'en fait, il est vraiment dans la souffrance, en fait, ou en tout cas dans une situation, donc, extrêmement pénible. Est-ce que tu peux nous donner des conseils justement pour transformer cette gêne en fait en un sentiment plus positif et qui peut faire du bien et à celui qu'on croise en fait et à soi-même?
Alors on peut essayer. Alors première chose, il faut être assez authentique et être honnête avec les personnes que vous rencontrez. Donc ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, premièrement. Deuxièmement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, essayez de passer d'une relation d'aide à une relation de rencontre. N'hésitez pas à leur proposer aussi, déjà à leur dire bonjour, à se mettre à leur hauteur. Autant vous n'allez pas promettre des choses, autant vous pouvez leur promettre de revenir. Autant plutôt... Ça ne sert pas à grand-chose de leur proposer de parler de leur histoire. parce que c'est pas la chose qui est la plus gaie et la plus sympathique à raconter souvent dans leur situation. Donc éviter de leur parler de leur passé, essayer plutôt de se projeter vers, vers l'avenir. Éviter de temps en temps de faire ça tout seul, parce que une relation, donc ça reste très circonstanciel. Une relation à trois, c'est préférable dans ce genre de situation, parce que du coup, le risque, c'est de créer un binôme où chacun ne trouve pas véritablement sa place, et le fait d'avoir une tierce personne qui va pouvoir avoir un regard un peu objectif sur la situation, dire bah là tu vas un petit peu trop loin, est-ce que tu es sûr que là c'est un peu étonnant, est-ce que tu te projettes pas à sa place. Enfin, le fait de faire des rencontres où vous arrivez à deux, après trois ça peut être beaucoup parce que la personne va peut-être se sentir un peu, voilà, mais le fait d'être à deux ou le fait d'en parler ensuite avec quelqu'un d'autre pour relire un peu la situation est toujours préférable. Ne forcez pas le rythme de la rencontre, il faut du temps, il y a des gens qui vont rien vous dire et puis au fil de l'eau ils vont commencer à s'ouvrir un peu, mais pas avoir peur du temps, parce que la notion de temps chez eux n'est pas du tout la même que la nôtre. Vous allez le voir deux jours de suite, vous allez penser que c'est votre meilleur ami, mais en fait pas du tout, ça fait 10 ans qu'il est dans une situation de précarité et que des gens comme vous, il en a croisé beaucoup d'autres, et ensuite la question ça va être toujours qui êtes qui, est-ce que c'est vous qui l'aidez ou est-ce que c'est lui qui vous aide dans votre... Donc il faut faire attention un peu à cette posture là et puis il faut laisser un peu la magie de la rencontre. Il y a des gens avec qui vous allez bien vous entendre et des gens avec qui vous allez avoir un contact facile et qui vont un peu vous fasciner ou avec qui vous allez avoir envie de discuter, envie de créer du lien, et puis il y en a d'autres avec qui ça va pas passer et ça sert à rien de forcer. Souvent, ça, soit le feeling passe, soit il passe pas. Et vous savez qu'à Paris, en l'occurrence, c'est la zone que je connais un petit peu le mieux, il va y avoir beaucoup d'autres associations qui vont passer, il y a beaucoup d'autres structures qui vont passer, il y a peut-être d'autres riverains qui vont faire la même chose que vous. Et il faut être en transparence avec lui. Il faut garder votre rôle de riverain et pas rôle de travailleur social. Donc, il faut recréer de la chaleur dans votre quartier. Mais il ne faut pas se substituer à peut-être un travail qui est déjà fait sur la notion d'hébergement. Invitez pas des gens chez vous. Si ça se trouve, ça fait 6 mois qu'un travailleur social a fait une demande SIAO pour essayer d'avoir un logement. Et vous allez l'extraire de son lieu de vie éphémère. Vous allez l'emmener chez vous. Le travailleur social ne va plus voir cette personne-là. Il va se dire, bah, finalement, je peux avoir la même chose gratuitement en 2 jours via mon copain de l'avenue Mozart. Alors que mon travailleur social n'est vraiment qu'une cruche parce qu'il est incapable de me trouver un logement. Donc il faut à chaque fois être pertinent et éviter de prendre la place qui n'est pas forcément la sienne. La place qui est la vôtre, c'est justement de créer une relation vraie, de charité de temps en temps, et de laisser faire un peu la magie de la rencontre.
Bon, ben voilà, la magie de la rencontre, maintenant, ça va être de vous laisser la parole, justement. Donc, on arrive, en fait, à la période donc, où on va échanger. Donc, je vais vous passer le micro. On va faire circuler le micro et que vous parliez bien fort, parce que c'est très important pour l'enregistrement.
Bonjour, je m'appelle Marguerite Dillard. Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre aujourd'hui. Vous avez fait des remarques très pertinentes. 200 000 personnes en France dans la grande précarité, nous sommes aujourd'hui à peu près 150. Ça vous montre l'importance que vous portez à cette problématique. Et ça me rend très humble. Vous avez parlé de la complémentarité entre l'État et les associations, fondations, entreprises et familiales. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu, sans nommer les fondations et les entreprises et les particuliers par des noms, mais nous donner un peu une vue d'ensemble de ce maillage qui existe en France pour nous aider à comprendre où est-ce que vous vous placez.
C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé d'argent. Alors, je vais essayer de parler de ce que je connais un petit peu, ce qui est un territoire assez particulier, qui est le territoire de la Défense. À la Maison de l'Amitié, c'était une question d'Arnaud auquel j'ai pas répondu, il y a 9 salariés, à peu près 140 bénévoles. On a un budget d'environ 650 000 euros. Dans ces 650 000 euros, vous avez à peu près 250 000 euros qui sont des subventions données par la DRIL, la Direction Régionale et Interdépartementale du Logement et de l'Hébergement. Ensuite, vous avez un vrai soutien de l'établissement public de la Défense, PLD, qui nous subventionne à hauteur de 100 000 euros. Ensuite, vous avez toute une autre partie de subventions qui peuvent être publiques en fonction des appels à projets. Par exemple, l'Agence régionale de santé qui va pouvoir nous faire une petite subvention parce qu'on va sensibiliser sur les problématiques de santé. Et ensuite, on va essayer de sensibiliser les fondations. Alors moi, je prône plutôt pour un ancrage territorial, pour qu'on puisse sensibiliser les acteurs qui sont dans un périmètre assez proche des problématiques qui sont liées. Et donc forcément, on va essayer d'aller voir un peu les entreprises de la défense, les grandes fondations. Après, les grandes fondations, depuis une quinzaine d'années, sont aujourd'hui de plus en plus structurées, où elles décident d'une ligne directrice et des axes qu'elles vont pouvoir soutenir. Ça peut être la grande précarité ou la recherche médicale, ou
l'éducation.
L'éducation. Il y a plein de très beaux axes. Donc vous regardez si vous êtes dans les axes de cette fondation d'entreprise et ensuite, maintenant, vous avez des dossiers à remplir. Oui, s'assure que vous utilisez bien l'argent que vous allez leur demander et que vos comptes sont certifiés. Et donc, moi, à la Maison de l'Amitié, comme sur la salle à manger, je jongle entre 40-60 ou 60-40 de financement privé et public. Ça vous donne un ordre d'idée. Et ensuite, nous, on est dans une taille intermédiaire à la Maison de l'Amitié. Je vous dis, on a un budget entre 500 000 et 1 million d'euros. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grosses. Et nous, les tickets qu'on peut avoir de la part de fondation vont aller entre 3 000 euros et 60 000 euros. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur du soutien qu'on peut avoir soit de fondation d'entreprise, soit de fondation familiale, soit de dons de particuliers.
Dans votre structure, qu'en est-il des mineurs d'âge et qu'en est-il des personnes accompagnées d'enfants ? Merci.
Très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. La Maison de l'Amitié oriente les mineurs et les femmes avec enfants. On n'accueille pas au sein de notre structure des mineurs. Pourquoi ? Alors, si je voulais être un peu direct, je dirais parce que c'est trop violent et que ce n'est pas un cadre et un environnement pour des enfants bas âge ou des enfants mineurs. Et que de plus, il existe maintenant beaucoup d'associations ou de structures qui sont dédiées sur ces profils de personnes. Et que ce soit pour les femmes ou pour les femmes avec enfants, vous avez des accueils qui sont dédiés pour les femmes avec enfants ou pour les mineurs. Les anciens clubs de prévention, il y en a un à La Défense qui s'appelle l'ASD, l'association du site de La Défense, vont aller spécifiquement à la rencontre de ces jeunes en errance ou de ces femmes avec enfants. Mais c'est, du coup, malheureusement, ils rentrent dans une autre case qui sont traités spécialement.
Arnaud, peux-tu dire comment tu résous le problème du logement ? Parce que tu parles du 115, mais le 115, très rapidement, il est complètement... ils ne peuvent pas l'avoir.
Alors, je vous ai parlé du 115. Donc, à tout moment, vous êtes... déjà, il faut que vous ayez un téléphone portable. Mais aujourd'hui, les personnes en grande précarité, avec l'histoire de carte SIM, de téléphone qu'on se donne, qu'on reprend, les gens ont à peu près un téléphone, même si le numéro change souvent. Mais en tout cas, ils peuvent, en tout cas, la Maison d'Amitié, pouvoir appeler le 115. La problématique du 115, c'est qu'il y a beaucoup d'appels le matin en même temps. Donc du coup c'est souvent saturé, donc vous avez du mal à joindre le service, et qu'en plus les lieux qui sont proposés soit sont pas assez nombreux, soit peuvent être, et c'est là où c'est un peu difficile, refusés par les personnes parce qu'elles savent très bien que le cache de Nanterre ça va être compliqué parce qu'on est 6 dans une chambre qui a des puces de lit et qu'il a croisé dans le bus le même bonhomme qui avait essayé de lui piquer son sac de couchage la veille, et que du coup il se dit que c'est pas forcément très 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 malin de se retrouver dans la même file d'attente dans ce lieu un peu difficile pour passer la nuit, sachant qu'il faut se lever ensuite très tôt le matin pour pouvoir repartir, pour que du coup il puisse faire le ménage pour remettre à disposition ses logements. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Je vous propose qu'on en discute plus tard. Non, je sais pas.
Non, parce que je connais bien le problème. Et effectivement, nous, on n'a pas de solution. Oui. Il y a un centre.
Alors, ce qu'il faut, c'est pas mentir. Il faut bien dire aux personnes ce sur quoi elles vont tomber ou quel vont être le dispositif qui va leur être mis à disposition. Voilà. Il y a quand même de plus en plus d'associations maintenant qui font des logements solidaires, qui font du partage d'hébergement. Et donc ça, on peut le saluer. Je pense à la Maison pour l'Amitié, je pense à Lazare, je pense à Valgiros pour les captifs, et ça existe de plus en plus en province. Ou là aussi, dans une de manière un peu tripartite, vous avez des personnes, des particuliers, des travailleurs sociaux et des personnes en grande précarité qui peuvent essayer de vivre en façon un peu communautaire. Et ça, ça se développe beaucoup. Et plus le cadre est... En fait, les petites structures marche mieux que les grosses structures. Et donc, il faut trouver les bonnes personnes pour faire des petites structures adaptées, voilà, plutôt que des grosses structures un peu usines, où là, forcément, ça ne se passe pas très, très, très bien.
Moi, j'ai une petite question. Je pense que tu as évoqué plein de choses qui nous ont parlé à titre individuel pour aider. Est-ce que tu pourrais nous aider exhaustivement en nous donnant une petite liste de choses concrètes qu'on pourrait faire ? Tu as effectivement une belle assemblée. Chacun est en train de se demander, en fonction de son temps, de ses moyens, ou d'autres outils peut-être qu'on a et qu'on ne sait même pas qu'on pourrait mettre à disposition. Est-ce que tu pourrais nous aider à passer de l'intention, de la sensibilisation, à potentiellement l'action, avec des choses que, à la rentrée, on pourrait faire pour la maison de l'amitié?
C'est très gentil. Alors, soit vous avez des compétences, et donc vous pouvez aider en faisant du mécénat de compétences dans votre entreprise ou à titre individuel, en donnant du temps et des compétences. Et donc ça, www.lamaisondelamitié.fr ou www.salamanger.org pour pouvoir servir au restaurant à l'heure du déjeuner. Donc soit du mécénat de compétences, soit vous pouvez sensibiliser à l'intérieur de votre entreprise ou dans votre cercle pour faire des collectes soit alimentaires, soit de produits d'hygiène, soit en hiver de couvertures, de sacs de couchage ou l'été de casquettes, sachant que la plus grosse difficulté qu'on a, c'est pas tant les vêtements, c'est plutôt les sous-vêtements, parce qu'on peut pas trop en avoir d'occasion, et les chaussettes et les ceintures et les casquettes. Donc vous pouvez organiser des collectes et les déposer. Sachant que ça marche pour la Maison de l'Amitié, mais ça doit marcher pour toutes les associations qui ne sont pas très très loin de chez vous. Et donc je suis sûr que dans votre quartier ou dans votre arrondissement ou dans votre ville, vous allez pouvoir vous renseigner. Je vous invite à les contacter avant de préparer une collecte. Autant faire en sorte que les dons correspondent aux besoins, tant qu'à faire. Donc organiser des collectes, ça peut être soit dans votre entreprise, soit à titre individuel. En essayant le plus possible de faciliter la vie de l'association, donc en essayant de faire les choses du début à la fin, parce qu'on n'est pas une entreprise de logistique, et donc de temps en temps on peut être un peu ennuyé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous déposer, mais il faut aller à Firoflet ou à Garches pour récupérer un sac de vêtements, et donc nous c'est un peu difficile de dire non, parce que ça nous demande plus de temps que d'aller chercher que de... voilà. Donc essayez de faire les choses... de A à Z. Ensuite, évidemment, vous pouvez donner de votre temps et donc vous pouvez devenir bénévole. C'est pas forcément très simple, mais c'est souvent très gratifiant. Et ensuite...
C'est déjà pas mal.
Et, non, et ensuite, de l'argent. Oui, bien sûr. Et ensuite, de l'argent. Merci Catherine de faire ses yeux.
Et on peut cumuler.
Et oui, vous pouvez cumuler. Ouais. Voilà, alors après, je ne vous fais pas le topo sur la défiscalisation, etc. Bon, etc. Bon, sur les filles, voilà.
D'autres questions? Oui.
Merci pour ce magnifique, Hugues de Langzin, bonjour. Magnifique discours, tellement concerné, tellement expérimenté, formidable. Et je trouve très extraordinaire qu'on soit ici, dans cette île de bonheur absolu. En pensant à une phrase, je crois que c'est... il est quelquefois difficile d'être heureux à la vue de tant de misère. Et c'est quand même le contraste entre nous et eux est tellement gigantesque. Et puis il y a une autre chose qui concerne ces gens-là, qui est très touchante, c'est qu'en fait, quand on aide, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et une des grandes difficultés, c'est d'essayer de changer cette impression, parce que ça reste toujours vrai. Et c'est ça qui fait que ces gens-là, finalement, ne deviennent très rarement des amis, parce qu'ils ont toujours eu l'expérience de ces gens qui se penchent comme sur les bébés, qui doivent avoir de nous une vision terrifiante. Ces gens qui se penchent sur eux comme ça, à la fois pour les protéger et à la fois en leur faisant peur. Je dirais juste expérimentalement que avec le Covid, qui a vraiment cassé beaucoup de choses, parce que ça casse notamment la chaîne alimentaire de ces gens-là, ils restent renfermés, tout ça, de ce temps-là, on a à peu près doublé les gens qui sont dans la grande précarité. C'est assez impressionnant. Mais à la fois de manière vision, donc moi je m'occupe de Malte dans les Hauts-de-Seine, on participe à cette opération de maison-là, par des maraudes sociales et des maraudes sociales qui créent simplement, elles ne sont pas distributives, c'est la création d'un lien. Ces gens-là, finalement, ne voient personne vraiment. Et donc l'intérêt, c'est de leur parler pour leur dire qu'ils existent et puis échanger quelques mots, présence comme ça. Et à partir de ça aussi, on envoie une maraude médicale qui est très bien installée dans Malte, dans les provinces et tout ça, qui est une en fait consultation à roulette et qui est chargée des petits bobos en effet, parce que et d'essayer de les convaincre, parce que souvent c'est le cas d'un cancer, d'une tumeur, d'un machin. Ils ont peur de l'hôpital. Avant, à l'hôpital, on recevait le SDF, qu'on appelait un clochard il y a très très longtemps. Maintenant, c'est interdit, comme les certaines couleurs. On recevait... les gars partaient à l'hosto avec leur bouteille, leur kill de rouge. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, ils n'y vont plus. Donc, il faut voilà. Donc, il y a une espèce d'absurdité dans la surréglementation qui font qu'en fait, on ne comprend pas que ces gens-là, sans leur bouteille de kill, ils sont plus morts par ça que par l'hôpital. Voilà, c'est juste un petit...
C'est quoi la question ?
La question, il faut continuer le combat. Donc il y a une multitude d'associations qui se mettent... excellent, je vois qui c'est, mais c'est excellent. Je vous passerai le micro après. Il y a une multitude... Il n'y a pas de question, en fait. C'est ça. En fait, je n'ai jamais posé de question à personne. En fait, il y a une multitude de gens qui font des choses. Et elle vous attend. Donc c'est à la fois aussi bien le Secours populaire communiste que l'Armée du salut protestante, aussi bien que Malte, aussi bien... Il y a une multitude de gens et beaucoup de petites choses de quartier, effectivement, qu'il faut rejoindre, qui vous attendent, avec cette difficulté énorme qu'on rencontre, c'est que les gens sont d'accord pour une action ponctuelle. On a beaucoup, beaucoup de mal d'engager des gens dans un engagement à long terme. Pardon d'avoir... pas poser de questions.
Merci de ton témoignage. Y a-t-il... Alors, attends, oui.
Tous ces petits-enfants qui souvent cherchent des stages à faire, est-ce que tu rentres dans le cycle des conventions de stages et que vous prenez des jeunes pour faire des stages dans ta maison de l'amitié ?
Alors, on prend des personnes en stage, mais que des majeurs. Un peu le même discours que j'ai tenu sur les mineurs. On a un partenariat avec l'école l'ESSEC. L'ESSEC qui fait des stages terrain maintenant de un mois. Donc on accueille les étudiants dans leur programme pendant un mois à la Maison de l'Amitié. On l'a aussi avec la prépa Daniel Lou, où des élèves vont venir faire un stage chez nous pour un peu voir un peu une autre partie de ce qui peut exister et de... Voilà.
Et la Maison de l'Amitié est installée juste en face en fait, d'une grande école de commerce à côté qui s'appelle l'INSEC. Donc voilà, les étudiants sont à la porte de la Maison de l'Amitié. Je ne sais pas si ce voisinage donc, est fécond, mais...
Ça ne peut que l'être.
Ça ne peut que l'être.
Bonjour. Tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez abordé la problématique de l'accueil des femmes au point que vous envisagez... Est-ce que vous pouvez nous expliquer... la problématique.
Alors, c'est des choses très pratico-pratiques, hein, liées à l'intimité, liées à la violence, liées... les locaux sont pas faits pour. Et puis même dans l'approche sociale des travailleurs sociaux, ça demande pas forcément la même empathie, enfin, je sais pas comment dire ça, la même approche. Voilà. Et donc, d'une part, très physiquement, il faut des lieux qui soient faits pour, où on n'a pas forcément besoin de se croiser. autant vous avez beaucoup de femmes qui vont vouloir être dans des univers mixtes, autant nous, je vous en ai parlé, un peu des problématiques d'alcool, de violence dans les souterrains, des problématiques communautaires, où il y a des cultures qui sont un peu différentes, où la place de la femme n'est pas acceptée de la même manière, où du coup vous avez un décalage culturel entre certaines communautés et d'autres, et que certaines femmes ont besoin et c'est nécessaire de s'exfiltrer de ces bandes et de ces réseaux. Et en plus, pour les femmes qui sont victimes de violences, le temps entre je sors du bureau et je rentre chez moi, et peut être un temps un peu disponible pour pouvoir faire un petit crochet vers une association et pouvoir avoir le temps de discuter un peu des choses un peu graves. Et donc à la Défense, on est un peu dans ce tiers lieu ou ce tiers temps qui peut leur être très favorable.
Y a-t-il encore, oui.
Est-ce que vous avez un accueil particulièrement dédié aux immigrés et en particulier aux Africains et aux femmes africaines, parce qu'on vient d'évoquer le problème des femmes?
Alors, pas du tout. Alors nous, en fait, c'est peut-être un peu utopique, mais alors on accueille tout le monde et ça se passe très bien. Le plus important, c'est de créer un environnement favorable et de mettre un cadre et des limites. Donc évidemment, tous les propos racistes, sexistes, les mains baladeuses, les violences, qu'elles soient verbales, psychologiques, sont évidemment interdits. Donc vous avez un règlement qu'il faut respecter, une charte. Et une fois que on dit un peu les choses et on dit la manière dont on doit se comporter pour vivre ensemble, voilà. Après, évidemment, il y a des cultures ou des approches très différentes. Mais vous savez, ces gens-là vivent des choses tellement graves et luttent, ont tous une bataille interne, une guerre qu'ils luttent eux-mêmes, qu'on ne connaît pas, qui se retrouvent quand même sur des fondamentaux. Et on n'en a pas parlé, mais de la solidarité entre eux, de l'entraide, de la fraternité qu'il peut y avoir, sur les dons qu'on voit, nous, quand on le voit bien, ils s'entraident et ils s'aident constamment. Et ça nous sert d'exemple aussi de temps en temps. Donc non, pas de distinction, quelle qu'elle soit, sur les profils. Alors on peut en parler un peu, mais on a 30% de pays de l'Est, 30% d'Afrique du Nord et 30% d'Europe. Voilà.
Y a-t-il alors une dernière question? Ah, une dernière question.
La maison de Nanterre jouait un très grand rôle dans l'accueil des indigents dans l'ouest de la région parisienne. Qu'est-ce qu'est devenu la maison de Nanterre?
Je ne sais pas. Non, nous on est en lien avec les autres accueils de jour qui sont dans notre environnement proche. Je pense, enfin voilà, il y en a 3 ou 4. Mais la maison de Nanterre, elle avait peut-être changé de nom, je ne sais pas. Mais il y a d'autres accueils de jour hein, mais ça ne me dit rien, ça me dit rien. Mais je me renseignerai du coup.
Réponse la prochaine fois. Voilà, ben écoutez, il nous reste en fait à remercier beaucoup Antoine.